Direct en jeu, la radio insolite, vous savez qu'on adore avoir des rendez-vous un peu insolites et un peu originaux. Et quand je tape Philippe Touzet, T-O-U-Z-E-T, sur la toile, je découvre que je vais avoir affaire à un avocat.
Oui, c'est pas moi là.
Non, bah, bonjour moi. Philippe, attends, moi il y a marqué avocat à la cour d'appel de Paris, 1988, DEA droit des affaires, Paris 13, c'est pas toi?
Non, c'est pas moi, c'est pas moi. Il y a plein de Philippe Touzet, comme peut-être qu'il y a plein d'Alain Moreno.
Oh, voilà, merci, oh, mais ça attaque fort là.
il y a plein de, comment dire, d'homonymes. Voilà, d'homonymes. Non, non, moi je suis déjà auteur de théâtre et ça me suffit amplement. Et également scénariste de fiction radio.
Alors, avant de parler d'auteur de théâtre, j'ai quand même, je dois avoir un certain respect, au fil de l'histoire, Nuit Noire, Affaires Sensibles sur France Inter, fiction historique, polar de politique, espionnage, comédie, on dit donc, oula, mais j'ai pas affaire à n'importe qui là.
Ouais, j'ai beaucoup écrit pour la radio, là ça s'est calmé un petit peu depuis un an parce que France Inter a baissé le volume, c'est le cas de dire, en ce qui concerne les fictions radio. Mais c'est vrai qu'en grosso modo une dizaine d'années, puisque j'ai commencé à écrire pour la radio en 2011, j'ai écrit près d'une quarantaine de fictions, oui, pour trois émissions différentes.
Dis-moi Philippe, sans vouloir faire une marche arrière, allez, en résumé, qui es-tu et que fais-tu dans la vie ?
Alors, qui je suis ? Ben, je suis Philippe Touzet, j'ai 56 ans, et je suis donc auteur professionnel, c'est-à-dire que je partage mon temps professionnel entre l'écriture de fiction radio et l'écriture de pièces de théâtre. J'écris également, c'est tout récent, des chroniques pour le magazine en ligne Profession Spectacle.
Tout à fait.
J'enseigne le théâtre à Sciences Po, Paris. Et en ce qui concerne le passé, puisque tu m'as demandé aussi le passé, j'ai été pendant 5 ans le président des écrivains associés du théâtre, les EAT, qui est l'organisation professionnelle des auteurs et des autrices de théâtre français et francophone, et aussi anciennement membre de la commission théâtre du Centre National du Livre. Voilà.
Ah, mais zut, là, voilà. Il a tout dit, il me piquait toutes mes questions d'après, zut.
Ah, il ne fallait pas me laisser la parole. Alors, hein, fallait...
Dis-moi Philippe, juste un truc, quelles sont tes circonstances atténuantes ? Avais-tu déjà un stylo, un papier, un crayon dans le ventre de ta maman ? Tu écrivais déjà quand tu étais...
Non, mais ce qui est troublant, c'est que quand j'ai commencé à écrire, c'est tout jeune, hein, je devais avoir une douzaine d'années, quand commencé à écrire, ma première envie d'écrire, c'était d'écrire du théâtre. Voilà. Et je n'étais jamais allé au théâtre de ma vie. C'est parce que je suis un petit villageois. Pendant les 20 premières années de ma vie, j'ai vécu dans un petit village qui s'appelle Mios, qui est en Gironde, à côté, à 25 km d'Arcachon exactement.
Combien d'habitants ?
Donc à l'époque, il y avait à peine 2000 habitants.
Oui, bah écoute.
Dans les années 70. Et donc voilà, je me suis mis à écrire du théâtre alors que je n'étais jamais allé au théâtre. Voilà.
Mais, comme ça. Comme Mozart s'est mis devant un piano, il a composé, je crois, il avait 6 ou 7 ans.
Ouais, ma première manière d'écrire, mon premier support de création, ça a été le théâtre, alors que j'aurais pu, j'ai lisé comme tous les gamins de mon âge, Bibliothèque Verte, Bibliothèque Rose et tout ça, j'aurais pu partir sur des romans avec 5 copains, tu vois, La Chasse au Trésor, j'aurais pu écrire des poèmes, ça se fait quand on est enfant ou pré-ado, tout ça, non. Moi, de suite, j'ai voulu écrire des histoires de théâtre, alors que j'ai mis quasiment presque 10 ans plus tard, j'ai commencé à découvrir le théâtre vraiment, en arrivant à Paris. Quoi.
D'accord. Ta référence, peut-être, théâtrale ? Il y en a une ? Il y en a plusieurs ?
Il y en a plein, parce que dans le répertoire classique, dans le répertoire contemporain, classique, c'est quand même difficile de passer outre Molière, évidemment, avec une préférence quand même. J'aurais une préférence pour Marivaux, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le théâtre de Victor Hugo. Voilà, ça, on va dire, voilà, vraiment succinctement, et dans une heure après l'interview, je dirais, ah, pourquoi j'ai pas dit ça à Alain, mais c'est toujours comme ça quand on fait une liste. Et on va dire, les contemporains, bah, là aussi, il y a Gavilly, Lagarce, Coltès, Beckett, voilà.
D'accord.
Et les contemporains vivants, là, je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain, puisque je connais trop de monde, et là, forcément, quelqu'un va me dire, bah, pourquoi tu n'as pas parlé de moi? Donc, j'en ai plein des contemporains vivants que j'aime beaucoup lire, mais je ne les citerai pas. Parce que là, c'est sûr que si j'en oublie un, ce serait dommage.
Alors, moi, je vais te poser une question très basique, mais comme on dit, une évidence est toujours évidente. Concrètement, que fait un auteur de théâtre? Il écrit? Il fait quoi?
Bah, il écrit du théâtre. Il écrit du théâtre. Et après, je dirais, il essaie d'en vivre. Voilà. Et là, c'est là où ça se complique fortement. Parce que, bien sûr, on peut écrire du théâtre et les pièces peuvent rester dans le tiroir. Mais si on a l'envie, la prétention, l'inconscience de devenir auteur, autrice de théâtre professionnel, ben, il faut beaucoup écrire, il faut envoyer ses textes aux maisons d'édition, il faut envoyer ses textes aux metteurs en scène, il faut essayer que cette pièce soit jouée, qu'elle vive, puisque nos textes appellent à l'incarnation, hein, les pièces de théâtre, même si beaucoup de pièces de théâtre ont une très grande qualité littéraire, ça ne suffit pas, une pièce de théâtre c'est fait aussi et surtout pour être jouée. Donc, je ne sais plus qui disait, c'est quand on finit d'écrire une pièce de théâtre que tout commence. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Même si je partage aussi l'avis de beaucoup, qui est que une pièce de théâtre est aussi une œuvre littéraire.
Oui, ben alors là, c'est parfait. Parce que j'allais te demander, j'ai essayé de comprendre la différence entre un auteur de théâtre et quelqu'un qui fait un livre, un roman. Et la seule chose que j'ai vue, c'est que celui qui fait le roman, ça paraît plus simple parce qu'il n'a pas besoin de faire des répliques, il n'a pas besoin d'enclencher plusieurs personnages, ou en tout cas, il peut le faire de manière complètement différente.
C'est pas la même chose, tout simplement. C'est pas la même chose. Tu vois, j'écris également des fictions radio. Ce n'est pas du tout la même activité littéraire. Ce n'est pas du tout pareil. On pourrait le croire parce qu'on pourrait croire qu'écrire pour la radio, c'est du dialogue. Donc ça rejoint évidemment le théâtre qui n'est que du dialogue également, mais c'est tout à fait faux parce que le théâtre, on écrit pour une convention, la convention théâtrale, et puis on écrit aussi pour la vision, hein, le spectateur voit ce qui se passe sur le plateau, tandis que la radio c'est tout simple, tu écris pour l'oreille, et donc c'est une autre écriture, tu écris aussi en fusion avec l'univers sonore proposé par le réalisateur, mais que ça soit de toute manière le théâtre comme la radio, par rapport au romancier, je reprends ta question, l'auteur de théâtre s'inscrit dans une communauté de talents, s'inscrit dans un collectif. Voilà. Ça, c'est important. Comment dire, un romancier, il écrit son roman, à la limite, il peut avoir un seul interlocuteur, c'est son éditeur. Et après, ça passe ou ça passe pas, le livre est acheté, il y a un contact avec le lecteur, la lectrice, voilà, ça se passe comme ça. Le théâtre, c'est beaucoup plus compliqué. D'abord, il faut écrire une histoire, en plus, après, il faut avoir contacté un éditeur, il faut contacter un metteur en scène, ou être contacté par un metteur en scène, une metteuse en scène. Voilà, le travail de l'auteur de théâtre s'inscrit dans un collectif, pas celui du romancier, pas le romancier.
D'accord. Moi, c'est suite à ta publication que tu as mis sur le site professionspectacle.com, où moi-même j'ai été amené à voir plusieurs interviews mises sur ce site-là. Tu as mis donc un texte, alors je vais lire déjà le titre, « Mes meilleurs vœux pour 2021, deux points, des vœux de combat, de lutte, de vigilance et de projet ». Et tu attaques très fort, puisque tu mets avant de commencer mon propos sur la situation dramatique des auteurs et des autrices de théâtre, je voudrais avoir une pensée pour toutes les personnes qui l'an dernier ont envoyé des vœux de bonnes et heureuses années 2020, et surtout une bonne santé.
Bah oui, on s'est un peu planté, non? Je crois pas, là. On s'est tous plantés, là.
Pourquoi? Il y a eu quelque chose de spécial? Excuse-moi, pour mon information personnelle, il y a eu quelque chose de spécial en 2020? Qu'est-ce qui est passé?
Voilà.
Donc, il y a eu la canicule, c'est ça, non?
On a tous souhaité une bonne année, une bonne santé à tous nos proches, tous nos amis, voire même pour certains des vœux publics à des milliers, des dizaines de milliers de gens. Et ça a été une année terrible. Ça a été une année terrible. C'est une année qui restera dans les annales. C'est évident que c'est une année qui, d'ailleurs, comme je l'écris dans mon texte, sera étudiée à l'université dans plusieurs décennies. Elle fera l'objet de films, de podcasts, de livres, parce que c'est ce qui se passe actuellement, toi, là au moment où nous parlons tous les deux, c'est hors norme, hors norme. On vit quelque chose qui est en train de casser tous nos modes de pensée, tous nos modes de vie. C'est quand même très, très particulier. En quelques mois, on est, tu vois, il y a encore quelques mois, peut-être que tous les deux, on se serait vus dans un bistrot.
Oui, hein, sûrement.
Pour discuter de tout ça. Et là, maintenant, on fait ça par téléphone, par visioconférence.
Tout à fait.
Les rapports humains se sont raréfiés, à juste titre, dans un sens, bien sûr, à juste titre. Mais il est évident que pour beaucoup d'entre nous, voire quasiment nous tous, hein, puisque l'être humain est un animal sociable, c'est quand même une souffrance, c'est évident.
Complètement. Alors moi, ce qui est important, c'est que je ne pensais pas le 29 février 2020, quand j'ai lancé le nouveau slogan de la radio, « Toute vérité est bonne à dire », je ne pensais pas que ça allait être aussi concret. Et c'est pour ça aussi que quand j'ai lu ton texte, je l'ai trouvé extraordinaire. Je vous le rappelle que vous pouvez le trouver sur profession-spectacle.com avec les vœux de Philippe Touzet. Et là, par exemple, une des phrases qui m'a un boum, que je me suis pris en pleine figure, tu mets « Cette crise sanitaire sans précédent aura révélé les carences et les failles de notre société ». Bon, tout n'est pas parfait, mais quand même, est-ce qu'on doit aller à ce point-là? Carence et faille?
Oui. Oui, tout à fait. Oh, bah, écoute, oui. C'est-à-dire que là, on s'aperçoit qu'on paye le prix fort de dizaines d'années d'incurie
exact.
Au niveau politique,
tout
au
à
niveau
fait.
Politique, à commencer par Lisa Sack, on pourrait dire, de l'hôpital public.
Complètement, et ça date pas de 2020, ça date de...
Voilà, exactement, c'est des décennies, c'est-à-dire que ce sont des politiques qui ont été suivies, répercutées, poursuivies par tous les gouvernements que nous avons eus depuis plusieurs décennies. Mmh. Et c'est-à-dire que pendant des décennies, on a voulu faire des économies sur le bien commun de tous les citoyens français et françaises. Voilà, pour faire des économies de bout de ficelle, on a mis en danger l'hôpital public, comme on met en danger la justice. Il faut voir quand même aussi comment travaillent les magistrats dans nos tribunaux.
Tout à fait.
Comme on a mis en danger l'enseignement public, hein, que ce soit l'école primaire, que ce soit l'université, c'est le même combat. Il faut voir là aussi dans quelles conditions travaillent les professeurs. Et ainsi de suite. Et là, tout à coup, on s'aperçoit qu'on se retrouve face à une crise hors norme et que nous sommes absolument pas préparés, alors que on nous bassine, excuse-moi le terme, depuis des décennies, là aussi, comme quoi on a quasiment le meilleur système hospitalier.
Tout à fait.
C'est un peu, ça fait penser un peu, toute proportion gardée, évidemment, à 1940, où on te disait, mais les Allemands viendront jamais, on
exactement.
Avait l'imaginaux.
Oui,
on
tout
avait
à fait.
L'imaginaux. Donc, et là, on était tellement fiers de notre service de santé, on se rengorgeait. Bon, ben là, on a vu qu'il était complètement obsolète. C'est-à-dire que notre système de santé n'a tenu qu'au dévouement du personnel soignant. Donc, et aussi à la générosité des Français qui ont envoyé des blouses, envoyé des masques, envoyé des. Enfin, c'est quand même, quand tu penses qu'on est la 6-7e puissance mondiale, il y avait quand même de quoi se poser des questions. Et après, les carences, on voit bien au niveau politique, au niveau médiatique, au niveau scientifique. C'est vrai que là, il y a quand même, j'espère que, après cette crise, parce qu'on va quand même la passer, cette crise, j'espère qu'à un moment donné, il faudra quand même remettre les cartes sur la table. Et discuter de tout ça et échanger, débattre de tout ça, parce que il y a quand même, c'est très révélateur de la faiblesse de nos institutions, quoi.
On est tout à fait d'accord. Dis-moi maintenant, j'ai une question un peu complexe et un peu compliquée à te poser. Est-ce que tu me permets ?
Je t'en prie.
Est-ce que la culture, c'est fondamental ? Est-ce que la culture, c'est entre guillemets, essentiel, pour ne pas reprendre les insultes de non, trois petits points. Est-ce que c'est fondamental, la culture? Est-ce que le fait d'aller... est-ce que nous qui avons vécu, alors je fais un peu le vieux schnock, nous qui avons vécu au théâtre ce soir à la télé, est-ce qu'on peut concevoir de regarder maintenant à la télé ou sur un ordinateur une pièce de théâtre? ou est-ce que c'est fondamental d'aller directement sur...
On peut regarder une pièce de théâtre sur son ordinateur si on a le choix d'aller regarder la même pièce de théâtre dans une salle de théâtre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout est une question de choix. Il est évident que c'est très dangereux ce qui est en train de se passer actuellement au niveau du streaming des pièces de théâtre. Alors je comprends très bien de la part des théâtres, c'est tellement difficile actuellement ce qu'ils sont en train de vivre, les comédiens, les metteurs en scène. Quand je dis ils, je m'inclus dedans en tant que auteur de théâtre.
Tout à fait.
On éprouve aussi le besoin de prouver qu'on existe, de montrer qu'on résiste. Mais attention, c'est vraiment une lame à double tranchant. Faut pas non plus habituer les gens, surtout si ça dure. Hein.
Exact.
Parce qu'on sait pas du tout.
Tout à fait.
Parce qu'on peut se retrouver, Alain, toi et moi, dans 6 mois, et malheureusement, on est encore dans la même situation. Donc, si ça dure, il faut faire très attention parce que, comme on dit ça, hein, les grands-mères peuvent le dire facilement, les mauvaises habitudes sont très faciles à prendre. Donc, il faut faire quand même très attention à ne pas couper le lien avec le public. Et je dirais que ceux qui vont au théâtre, ceux qui sont allés au théâtre avant cette pandémie, tu imagines, ça va faire presque un an.
Bah oui.
Ils retourneront au théâtre. Mm-hmm. Petit à petit, parce que un peu comme un chat échaudé, faut pas croire que du jour au lendemain, les salles de spectacle vont être pleines. Hein, ça, c'est une évidence aussi.
Complètement.
Mais il faut penser aussi aux jeunes générations, celles qui ne sont pas du tout habituées à aller au théâtre, dont les premiers contacts se situe à travers un écran, ça peut se révéler dévastateur. Le spectacle vivant, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ce sont des personnes qui sont chez eux, chez elles, qui mettent leur petit manteau, leur petit gant, leur petit chapeau, qui prennent l'ascenseur, qui descendent dans la rue, qui prennent le métro. Il fait froid, il fait pas beau, on se couvre et puis tout à coup on rentre au théâtre, on rencontre d'autres gens, on s'installe. C'est une communion humaine, la même communion humaine qu'il y a des millénaires quand les hommes et les femmes étaient autour d'un feu et qu'il y en avait un d'entre eux qui racontait une histoire.
Ouais.
C'est pareil, on a besoin du conte, l'homme, l'être humain, a besoin du conte, a besoin de la puissance de l'histoire qu'on raconte.
Et puis il y a l'émotion aussi.
Oui, mais c'est pour ça que le théâtre résiste à tout. Le théâtre a résisté à la radio, le théâtre a résisté à la télé, le théâtre résiste aussi à Internet. Le théâtre résistera tout le temps. Mais à quel prix et pour qui? C'est surtout ça qu'il faut se poser. Hein. Il faut se poser la question de ça, il faut... pas que le théâtre ne concerne qu'une seule catégorie sociale, une seule catégorie d'âge et ainsi de suite, les urbains par rapport aux ruraux, les bobos par rapport aux prolos, enfin voilà, ça peut paraître un peu schématique ce que je dis, mais c'est quand même très 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 important.
D'accord. Je voulais en finir sur une question qui m'a paru complètement déroutante, enfin une chose qui m'a paru complètement déroutante. Les auteurs et les autrices de théâtre ne bénéficient pas du chômage partiel parce qu'ils ne sont pas considérés dans l'équipe artistique. Et alors là, j'ai pas compris, j'ai pas saisi.
Oui, bah alors déjà bon, ça englobe un problème vraiment important, c'est-à-dire que voilà,
ça englobe le problème de, je sais pas si on doit parler de statut ou de reconnaissance.
C'est un statut, enfin le statut dépend de la reconnaissance du gouvernement vis-à-vis des auteurs, mais c'est une question de statut. Les auteurs de théâtre, bon, déjà ne sont pas des salariés, voilà, ne sont pas des salariés. Les auteurs et les autrices de théâtre sont rémunérés à travers des droits d'auteur, des notes d'auteur. Mais là, je ne vais pas me lancer dans ces détails trop techniques.
D'accord, oui, non.
Tout simplement pour dire que voilà, non, c'est vrai que un auteur de théâtre, une autrice de théâtre ne bénéficie pas du chômage partiel parce qu'il ne travaille pas au sein, par exemple, d'une structure théâtrale. Et ça, c'est un combat que je mène depuis des années pour essayer qu'au moins au sein des structures théâtrales subventionnées, le théâtre public, donc, c'est-à-dire les centres dramatiques nationaux, les scènes nationales, les scènes conventionnées, accueillent un auteur, une autrice de théâtre, parce que la situation financière des auteurs et des autrices de théâtre est tellement aléatoire que serait-ce avoir une résidence de 2-3 ans pour un auteur de théâtre, c'est Byzance. C'est extraordinaire, ça lui permet de s'asseoir, ça lui permet de réfléchir. Et puis, ce qui est assez extraordinaire, c'est que les auteurs de théâtre, actuellement, ne sont plus en contact avec le lieu théâtre. C'est-à-dire que la plupart du temps, moi le premier, j'écris chez moi, je suis voilà, mais je ne suis pas en contact. Je peux passer des années sans travailler dans un théâtre. Tu comprends ce que je veux dire? J'écris pour le théâtre, mais je ne fais pas partie d'une équipe au sein d'un théâtre. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce que je prends souvent cet exemple, je veux dire, c'est aussi stupide que de demander à un boulanger de faire son pain sur le trottoir, tu vois, et pas dans la boulangerie.
Oui, exactement, tout à fait. Oui.
C'est aussi, tu vois, aussi simple que ça. Donc, et en plus, c'est vraiment le théâtre. J'ai parlé tout à l'heure de Molière. Voilà, c'est la troupe, c'est l'équipe, c'est le groupe. Et c'est vrai que très souvent, malheureusement, l'auteur de théâtre ne fait pas partie d'une équipe, d'un groupe. Et ça, c'est fou. Pour l'auteur qui est vraiment, entre guillemets, qu'auteur, c'est-à-dire qu'il n'est pas directeur de compagnie, qu'il n'est pas metteur en scène, qu'il n'est pas comédien, et il y en a quand même beaucoup, c'est un peu vécu comme un manque, quoi, comme presque même comme une sanction. Et donc, du coup, actuellement, je rebondis sur la position de la situation des auteurs actuellement, c'est terrible pour les auteurs et les autrices de théâtre, parce que, donc, pas de chômage partiel, tu l'as donc bien compris, puisque la plupart d'entre nous ne travaillent pas au sein d'une structure.
Ils font comment pour vivre ?
Aussi pas de droits d'auteur liés aux représentations, puisque les théâtres sont fermés. On a eu pendant très longtemps pas de droits d'auteur non plus liés à l'édition, puisque les librairies étaient fermées. Ensuite, pas de droits accessoires liés aux conférences, aux salons littéraires, aux ateliers d'écriture, parce que beaucoup d'auteurs de théâtre et d'auteurs, tout simplement, animent des ateliers d'écriture en milieu scolaire
ou dans des
lieux privés. Et tout ça, tu vois, toutes ces facettes permettent grosso modo à un auteur ou une autrice de théâtre de joindre les deux bouts. Et toutes ces facettes, hein, au mois de mars 2020, ont volé en éclats. Et la plupart des auteurs et des autrices de théâtre actuellement se retrouvent sans revenus depuis quasiment un an.
Oui.
Alors on bénéficie de quelques aides, mais enfin ce sont des aides. Voilà. Et donc les auteurs, ce qu'ils demandent avant tout, et les autrices, c'est de pouvoir retravailler. Parce que oui, j'oubliais les résidences et j'oubliais les commandes d'écriture. Tout ça, ça a été annulé ou reporté au calende grec. Donc voilà. La situation des auteurs et des autrices de théâtre actuellement, dont on parle assez peu d'ailleurs, est vraiment, sans mauvais jeu de mots, dramatique.
Tout à fait. Et puis, alors qu'on est, nous ne sommes qu'au mois de janvier, il y a plein de gens qui s'interrogent pour savoir si Avignon, aussi bien le festival In que le festival Off, va avoir lieu. Même le festival de Cannes, on ne sait même pas. On ne sait pas où est-ce qu'on va.
Non, on ne sait pas où est-ce qu'on va. Et quand on travaille au sein d'un milieu professionnel dont l'économie est quand même très friable, volatile, c'est terrible, parce que faut quand même bien voir que la saison 19-20 s'est arrêtée au mois de mars.
C'est ça.
Sans les festivals d'été, la saison 20-21, c'est un mois. Un mois, entre septembre et octobre. Maintenant, et donc on est déjà janvier, on sait pertinemment que jusqu'à au moins début février, voire mi-février, j'ai déjà entendu ça, on va pas jouer. Donc ce qui veut dire que là, c'est une deuxième saison de suite.
Oui, c'est ça.
Deuxième saison de suite qui va être très, très, très perturbée. Ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. Et on voit pas le bout du tunnel, c'est le cas de dire. Voilà, c'est ouvrir un théâtre, c'est pas aussi simple qu'ouvrir un bocal de confiture. Donc c'est une vraie économie, et j'ai l'impression que par moment, enfin c'est ce que ressentent beaucoup de professionnels du spectacle, il y a une vraie incompréhension de nos métiers au sommet de l'État.
Des vœux professionnels peut-être pour 2021, des vœux, un rayon de soleil, ton truc et astuce.
Des vœux, ce que tu as dit tout à l'heure, tu as cité mon édito, oui, des vœux de combat, parce qu'il faut montrer qu'on est là, il faut montrer qu'on existe.
Ne pas rester seul, par exemple, surtout ne pas rester seul.
Non, il faut se battre de toutes les manières. Le milieu du spectacle, on est un groupe, on se bat pour la culture. Tu disais tout à l'heure, est-ce que la culture est essentielle? Mais bien sûr que la culture est essentielle.
Ah ben je sais pas,
Je veux dire,
j'en avais doute, j'avais l'impression qu'ils disaient que c'était non trois petits points.
Bien
comme
sûr
si
que
c'était des moins que rien, les non trois petits points.
C'est évident. Bien sûr que la culture est essentielle parce que c'est... La culture, c'est ce qui permet comment dire, de créer le libre arbitre. Ça permet à tout citoyen d'avoir des outils de réflexion qui lui permettent, à des moments clés de sa vie ou de la vie de sa cité, de faire les bons choix. C'est très important, la culture. On a besoin de ça, c'est une colonne vertébrale, et à travers notre colonne vertébrale, c'est la colonne vertébrale d'un pays. Taper sur la culture comme c'est le cas actuellement, alors que nous sommes en proie à tous les extrémismes, à tous les populismes, c'est quand même troublant. C'est troublant. C'est ouvrir les centres commerciaux, ouvrir les églises et dans le même temps
laisser
fermer
les cinémas,
les théâtres.
Et
je ne sais pas si c'est conscient, si c'est voulu, si c'est idéologique. On peut se poser la question par moment. Mais c'est vrai que c'est envoyer un signal qui est terrible. Enfin, personnellement, ce n'est pas la civilisation, la société que je veux pour moi et surtout pour mes enfants.
C'est très joliment dit comme conclusion. Moi, je voulais te remercier d'avoir pris ces quelques minutes pour échanger et pour parler justement de ton sentiment personnel. Comme je l'ai dit au début, bonne santé avant tout. C'est ce qui est sacré, en tout cas pour 2021.
Oui, bonne santé, évidemment. Mais je te remercie, Alain. Vraiment, c'était un vrai plaisir.
Merci.
Merci.